France Culture.
Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Tenez, Judas par exemple, il avait des amis irréprochables, Paul Verlaine. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. On croit s'en sortir à bon compte avec la figure de Judas en invoquant son traître baiser, ses 30 deniers, son gibet fatal. C'était compté sans notre invité de ce soir, Philippe Battaglia, dont le roman La dernière tentation de Judas, paru à l'Atalante, rebat magistralement les cartes du récit évangélique où Satan tient la plume. Jésus et Judas, filent le grand amour et que le Père éternel voit d'un mauvais œil et où les apôtres passent leur éternité à s'écharper aux quatre coins de la planète. Une relecture subversive, toute tarantinesque et hérétique de l'Évangile. C'est ce soir dans Mauvais Genre. Chronique en second temps d'émission, signée Fleur Hopkins Loferon, Jean-Luc Rivera et Shaun Rose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui joue son salut, risque son âme, ce soir en invitant Philippe Battaglia. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Philippe Battaglia, vous publiez La dernière tentation de Judas, c'est aux éditions L'Atalante qui elle aussi joue leur salut. C'est un titre qui fait évidemment penser à Kazantzakis. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a cette
oui,
idée un peu
sûr,
derrière.
C'est une référence directe, oui, oui. Clairement.
Mais vous avez décalé le...
J'ai changé de personnage.
Voilà, c'est ça.
Mais on reste dans une explication gnostique. Donc, la cosmogonie reste la même.
Voilà. Très bien, on va voir ça avec vous, puisque c'est un fort abondant roman de près de 500 pages qui a demandé plusieurs années de travail et qui brasse quand même une quantité de notions à la fois théologiques, historiques, archéologiques, philologiques, théologiques. On n'en peut plus, ça tire dans tous les coins et sur un mode qui tient à la fois entre Marvel et puis l'Observatore Romano, il y a à peu près tout.
Oui, parce que le but c'est de rendre tout ça accessible, parce que je ne suis pas un scientifique. Je suis pas un exégète.
Nous non plus, rassurez-vous.
Voilà, donc j'ai été prendre un petit peu toutes ces références, je les ai digérées, et puis voilà ce que j'en ai fait.
Très bien, vous allez voir, on va en savoir un peu plus, et d'abord sur vous, puisque vous êtes quand même un personnage hautement mauvais genre en Suisse, là où vous résidez. Jean-Luc Rivera, bonsoir, bien longtemps qu'on ne s'est vu.
Oui, bonsoir François.
Welcome à Mauvais Genre, vous êtes chez vous, réaction comme ça, quelques mots sur le livre de notre invité.
J'ai été époustouflé.
Époustouflé. Bon, mais vous allez nous en dire plus, parce que...
Ah
là,
bah oui, après, voilà, mais c'est très riche. J'ai préparé quelques questions.
J'espère. Fleur Hopkins, pareil, époustouflée, quelques questions.
Époustouflée, abasourdie, et plein de questions sous le coude, François.
Ah bon. Plein de questions sous le coude. Et alors, Shaun Rose, alors vous époustouflée, abasourdie, plein de questions.
Convertie.
Converti, mais converti à quoi?
Parce qu'attention, je vous dirai pas, mais ça
c'est un roman qui expose à différentes croyances qui ne sont pas forcément d'une orthodoxie totale, une vision de l'Évangile qui n'est pas parfaitement docte et habituelle. Bon, enfin, nous allons voir tout ça. Nous sommes à Mauvais Genre. De mon côté, j'ai demandé au maître Laurent Polleret, que je salue de même que Ludovic Auger ce soir à la console, de nous évoquer Judas. Judas par Laurent Polleret, musique.
Je t'en veux pas, mon vieil Iscariote, tu m'as donné pour quelques ronds, sans doute que t'avais tes raisons. Je t'en veux pas, mon vieil Iscariote, c'est pas de ta faute si t'es comme ça. Mais ce qui me chagrine au pas d'état, c'est que tu te disais, mon vrai petit pote, comme on n'en fait plus sur la terre. Et puis je t'en fous, tu m'as fait faire comme un miteux, comme un pauvre mec. C'est ça, vois-tu, qui me désespère, tes magnes et tes salamalecs. tes embrassades, etc. Avec une gueule comme celle que t'as. Bravo mon vieux, chapeau mon gars, t'as du talent, il faut que tu pousses. Tu devrais donner dans la rousse, on est peinard, on peut trahir. Seulement voilà, il faut choisir, être dégueulasse ou bien seigneur.
Voilà, Léo Ferré, Judas Iscariot, 1953. Bravo, Laurent Polleret, parce qu'effectivement, c'est pas la chanson la plus connue de Léo Ferré. Et elle est tout à fait idoine pour notre sujet et notre invité de ce soir, sur lequel on apprend des choses singulières quand on va sur son site. Vous êtes apparu sur la planète en 1980, ça veut dire que vous êtes né en 1980, si j'ai...
81.
Et puis alors, on sait que vous avez été un enfant turbulent, un adolescent bordélique, un étudiant peu assidu, un punk de salon. C'est quoi un punk de salon?
Oh, c'est la même chose qu'un autre punk, mais il vit pas dans la rue, puis il a pas de chien. Dans les grandes lignes.
D'accord. Vie de poubelle dans une banque.
Oui.
Oui, ça, c'est ça, ça arrive.
C'est assez local.
Ça arrive, oui. Archiviste dans une abbaye. Alors là, ça m'intéresse, parce que est-ce que c'est à ce moment-là qu'est née votre vocation d'écrivain,
alors,
j'ai punk évangélique.
J'ai eu cette activité parce que je suis objecteur de conscience, donc j'ai pas fait l'armée. Et comme occupation accessoire ou disons de remplacement, j'ai travaillé 9 mois dans une abbaye, ouais, à scanner des vieilles bibles. Et alors peut-être il y a quelque chose.
Et là, quelque chose.
Peut-être il y a quelque chose qui vient de là. Ouais.
Animateur radio, vous êtes
oui.
Un bon frère.
Hein, ouais. Ouais.
Où ça? Quelle radio?
Couleur 3 sur la RTS en Suisse.
Et puis alors surtout programmateur de films de cinéma, les étranges mythes du cinéma à Montaigne dans le Valais. Et là vous avez fait un peu des étranges festivals, des séances
ouais,
bizarres.
Alors il y a une petite confusion. Le festival des étranges mythes, c'est à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, où j'ai été responsable de la programmation long métrage pendant une dizaine d'années. Mais j'ai effectivement cofondé une salle de cinéma, une salle de spectacle à Monté, là où je réside, qui s'appelle le Kremlin.
Ben, très bien. Donc vous êtes une sorte d'activiste mauvais genre, extrêmement dangereux. Vous êtes surveillé, on vous a à l'œil là-bas.
J'imagine.
En Suisse.
J'imagine.
Voilà. Et puis alors, j'oubliais, je ne vais pas dire l'essentiel, mais vous avez quand même dirigé la collection Le Gore des Alpes, dont nous parlâmes ici même.
Oui.
Quelques mots sur Le Gore des Alpes.
Ben c'est toujours en activité.
Ben,
ça existe depuis 2019. On fête nos 5 ans et on publie ce semestre les volumes numéro 31, 32, 33 et 34.
Ben dites-moi, donc une belle production.
Ouais, c'est un joli score.
Pour le 50, content. Vous reviendrez comme ça.
Mais avec plaisir.
On fera le point sur ce Gore des Alpes. En attendant, ce soir, vous êtes avec nous pour cette dernière tentation de Judas parue à l'Atalante. La passion selon Judas de Majoie à Jarry une trouvaille de l'unique Laurent Polleret, parce que là, il fallait quand même y aller. Merci, cher maître. Alors, sur Judas, on avait déjà expérimenté un petit peu, disons, l'érudition, la connaissance du personnage, avec une somme en plusieurs volumes publiée par Christophe Stenner, qui était venu nous parler d'Ernest de Gengenbach, et qui a fait une espèce de somme encyclopédique qui contient tout ce qu'on a pu dire, penser, écrire, représenter de Judas en bande dessinée, au cinéma, en littérature, effectivement. Et c'est vrai qu'en littérature, bon, il y a déjà des tentatives, alors beaucoup plus courtes que les vôtres, que ce soit Paul Claudel, par exemple, qu'on peut citer à mauvais genre, qui a fait monologuer Judas pendu, et Judas expliquant que, ma foi, bah, c'était un brave gars qui voulait tout le bonheur des hommes et qu'il n'a pas trop compris ce qui s'est passé, que bon, il a un petit peu déraillé, mais que c'était par bonne volonté. Il y a trois versions de Judas de Borges, où il nous explique que Judas, bah, ma foi, c'est le Christ, puisque si on doit prendre le péché du monde, le vrai péché, c'est trahir le Rédempteur, Léo Pérut, enfin, il y en a énormément. Est-ce que vous vous êtes, dès le départ, colté à cette culture judasienne, Philippe Batavia? Ou est-ce que vous êtes parti comme ça, avec une espèce de vision personnelle, soudaine?
Le livre démarre, comme je pense, toutes les bonnes choses, par une blague. Voilà, c'était cette relation entre Jésus et Judas, et puis qui aurait été la raison de la trahison. Mais effectivement, la littérature sur Judas est riche parce que c'est un personnage fascinant. C'est le grand méchant de la Bible, en tout cas du Nouveau Testament.
Avec Cain.
Pardon?
Avec Cain.
Cain, c'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'est vraiment Judas. Et c'est vrai que moi, j'habite en Suisse, on l'a dit, dans une région qui est très catholique. J'ai mangé mon catéchisme. Cette figure de Judas, elle m'a toujours fasciné parce que c'est quelqu'un qui a suivi l'enseignement du Christ, qui était avec lui pendant 3 ans, qui a été choisi dès le départ, et qui, au final, le trahit pour une somme pas si énorme que ça. Et moi, ça m'a toujours semblé un peu faible comme excuse, comme raison. Et je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose d'autre derrière, et c'est un petit peu le point de départ de tout ça. Mais aussi, voilà, parce que c'est le méchant. Je trouve que les méchants sont toujours plus sympas à écrire, sont toujours plus fascinants à explorer. Je me serais pas vu écrire 500 pages sur le Christ, même si lui aussi a un côté un peu bad boy, en tout cas dans la vision que j'en ai.
Personnage scandaleux quand même.
Oui. Si on le sort des griffes actuelles des puritains conservateurs, effectivement. C'était un révolutionnaire, c'était un bad boy. On va en parler, j'imagine. Oui. Mais voilà, il y avait cette figure de Judas qui est le grand méchant. Et puis, est-ce qu'il était vraiment
mort, voilà, c'est ça qui m'intéressait. J'essaie de remplir cet angle mort. Alors, ce livre, La dernière tentation de Judas, Jean-Luc Rivera, dites-nous un peu de quoi s'agit-il. Vous êtes l'homme des grandes ambitions et des grands projets. Donc, parlez-nous de ce livre. Qu'est-ce que c'est, La dernière tentation de Judas? On va demander à nos trois amis ce soir.
Alors, la dernière tentation de Judas, c'est d'abord une très belle histoire d'amour. Et une histoire d'amour qui dure 2000 ans. Mm-hmm. Bon, et on comprend à travers le livre, sans le déflorer, pourquoi Judas a trahi son amour. Et cette quête de 2000 ans, pour le retrouver, et il n'est pas le seul à avoir survécu à la disparition du Christ. On apprend que les autres apôtres aussi ont reçu le don du Saint-Esprit et donc sont tous immortels. Ils sont tous devenus en quelque sorte des Asverus. Mais plus Lazare, ce qui est, je trouve, un personnage extraordinaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Parce que le pauvre Lazare, lui, effectivement, il a été ressuscité. Mais il n'est pas immortel, il est simplement doué de longévité, mais le jour où, eh ben, il peut mourir comme n'importe qui. Et c'est absolument magnifique. Et donc, on s'aperçoit qu'en 2000 ans, les apôtres, en fait, ont beaucoup changé et ont suivi des inclinations qui sont très différentes les unes des autres, et que donc les personnages irréprochables du début ne le sont plus tant que ça. Et tout l'intérêt du livre, c'est de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi Judas a trahi, et on n'est pas au bout de nos surprises. y compris, alors on est dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais un personnage qui est quand même central à travers tout, c'est Dieu, omnipotent, etc. Et on s'aperçoit que Dieu, lui, est quand même toujours le Dieu de l'Ancien Testament.
Le Dieu de
Il a du mal à évoluer. Et donc, c'est ce qui fait tout l'intérêt du livre, plus naturellement une foultitude de personnages qui sont tous les réprouvés pour lesquels Jésus était venu et qui réapparaissent à la fin pour remplir à nouveau un rôle qui est absolument remarquable. Donc, c'est très injuste ce résumé par rapport au livre.
Ah, je le trouve déjà pas mal.
Mais voilà où on en est, et il y a une fin qui est magistrale.
Alors, on n'en dira pas plus. Chaudrose, alors vous complétez les...
Bah écoutez, moi je ne peux qu'adhérer aux propos de mon camarade, mais surtout, ce que j'ai aimé, oui, c'était cette histoire d'amour et surtout cette histoire de, en fait, comment on trahit un message qui était d'origine et à travers les siècles. Et d'ailleurs, la personne qui le trahit le plus, c'est l'héritier de Saint-Pierre, puisque finalement, ça commence par un pape. Alors là, c'est extraordinaire, parce que ce pape s'appelle Léon XIV.
Ah, oui. là,
et
ah,
alors là,
Batalia prophète.
J'ai déjoué les statistiques.
Là, je ne sais pas comment vous avez fait, puisque j'avais lu avant, en fait, l'élection du présent pape, et j'avoue que le relisant pour cette émission, j'étais complètement scotché. Bref, en tout cas, non. Moi, ce que j'aime, c'est l'évolution de ces personnages, et que vous dites le méchant personnage Judas, oui, dans l'iconographie, surtout chrétienne, surtout avec des relents antisémites, évidemment, sur Judas, puisque ça va être le personnage qui va être, qui a donné d'ailleurs. Qui a nourri tout le fascisme et le nazisme, c'est-à-dire celui qui a tué Dieu, etc. Et donc représenté roux avec la couleur de la trahison, le jaune, etc. Donc ça, c'est. Mais vous faites un personnage qui est tout à fait tendre, en fait, et qui, en fait, s'en veut. Et comme on peut s'en vouloir d'avoir fait une connerie dans un couple, quoi, d'avoir trompé sa douce moitié. Donc il y a ce côté qui se rachète et lui-même, il y a un côté Lord Jim. Parce qu'en fait, il fait des choses bien. Et en fait, tout le monde le prend pour le Messie, en fait, ce monsieur J. J comme Judas, mais J comme Jésus. Mais les gens de l'entrepôt, c'est gens du peuple.
Le peuple de marginaux, de
sans-abri, le prennent pour le Messie. Mm-hmm. Et lui, c'est comme Lord Jim. C'est Lord Jim qui a trahi aussi dans le livre de Conrad et qui se retrouve, en fait, le seigneur de cette... Et je trouve ça très beau de dire qu'on n'est jamais à sa place et il y a toujours une espèce d'usurpation. Et cette trahison, elle continue avec un besoin de rédemption. Ça m'a vraiment ce côté rédemption.
Alors, réaction Philippe Batalia, deux premières approches, à la fois la dimension amoureuse, parce que c'est quand même... faut oser de mettre en scène une sorte d'histoire d'amour sur la très longue durée entre Judas et le Christ, et de mettre en scène des colloques amoureux, des pratiques amoureuses entre ces deux figures. Et puis, alors aussi... la manière dont vous mettez en scène le groupe des apôtres, chacun évoluant selon son destin particulier. Alors, réaction ?
Mais je dirais il y a deux choses. Premièrement, il y a l'aspect queer du livre, si on veut le dire comme ça, qui, quelque part, m'a été imposé par la Bible elle-même, puisque c'est bien Judas qui trahit Jésus. Si ça avait été Marie-Madeleine, par exemple, ça aurait été un tout autre livre. J'imagine même qu'on vivrait dans une toute autre société, pour le mieux ou pour le pire. C'est pas à moi de le dire, mais enfin, voilà. Il se trouve que c'est comme ça que le matériau de base est. Et puis, effectivement, il y a cette espèce de quête divine. Mais moi, ce qui m'intéresse à travers tous ces personnages, c'est leur humanité. Parce que ce sont tous des humains. Les apôtres sont des êtres humains qui ont été choisis, on a l'impression, quand on lit l'évangile, presque au hasard. Ils étaient au bon endroit, au bon moment, et puis Jésus leur a donné des super-pouvoirs. C'est un peu ça qui s'est passé.
Et puis,
dans la figure christique elle-même, ce qui m'intéresse, c'est pas le divin, c'est l'humain. Parce que le divin, ça nous éloigne. L'humain, ça nous ramène son message à notre hauteur. Ça nous le rend accessible. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et puis après, oui, voilà, il y a cette manière dont Judas se cache, parce que comment vivre en étant Judas pendant 2000 ans. Et il y a effectivement tous ces personnages qui vivent encore de nos jours, et là aussi ça m'intéressait, c'est peut-être un des thèmes, mais des thèmes mineurs, c'est cette immortalité. On n'est pas fait pour vivre 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe si on vit 2000 ans? Comment ça tourne là-dedans? Est-ce qu'au bout d'un moment on n'est pas blasé? Est-ce qu'au contraire on a des ambitions peut-être trop hautes pour un être humain, mais parce qu'on sait qu'on vivra éternellement? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on réagit? Quels sont les chemins qui sont possibles?
Mais alors, d'autant plus que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit se manifeste sous la forme de ce qu'on peut appeler des super-pouvoirs. Mm-hmm. C'est-à-dire face à une blessure, face à une destruction, face à un malheur, l'apôtre peut intervenir sur un effet qui est quasiment une espèce de la thermodynamique. Là, on sent les énergies qui se mobilisent, qui se concentrent et qui agissent brusquement. Il y a une vision totalement super-héroïque. Oui. C'est-à-dire que l'apôtre devient un peu marvelien.
Oui, ouais, complètement. Mais la Bible, c'est le premier Marvel de l'histoire. Il y a eu tout d'un coup concrètement, factuellement, il y a un type qui a réuni 12 bonhommes, qui leur a donné des pouvoirs, qui leur a permis de faire des miracles, de ressusciter des morts, de chasser des démons, de guérir des maladies. Jésus a créé les premiers Avengers. C'est aussi simple que ça. Et son seul, moi, ce que je lui reproche peut-être au Christ, c'est que c'est de n'avoir réservé ça qu'à 12 bonhommes. Alors que si on avait tous été capables de soigner...
Il a entendu que si tout le monde avait un gramme de foi, on peut transporter les montagnes.
Ouais,
donc, ça qui a un côté Superman, super-héroïque.
Ça, je ne l'ai pas encore vu. Mais, mais enfin, voilà. Il crée une équipe de super-héros. Il leur donne une mission. Mmh. Et à travers l'Esprit-Saint, en tout cas dans mon livre, cette mission est éternelle puisqu'ils deviennent immortels. Et ils ont pour mission de soigner les maladies, de chasser les démons pour l'éternité.
Fantastique 12, alors.
Oui. Oui, c'est un peu ça. Ouais.
Flore Hopkins, alors, votre lecture et votre réaction.
Alors, pour ma part, ce que j'ai trouvé vraiment savoureux, c'est ce postulat qu'on trouve en quatrième de couverture et qui nous dit que la Bible, eh bien, c'est la brique programmatique pour toute la pop culture qui va suivre. Et donc, de fait, vous vous inscrivez tout à fait dans des réhabilitations de personnages maudits. Aujourd'hui, on a beaucoup de séries télé, notamment, qui nous disent que Lucifer n'est pas un personnage si diabolique qu'on le croit. Et puis aussi, dans un phénomène de modernisation, je pense notamment à De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Je pense à American Gods de Neil Gaiman, encore une fois. Et donc, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est ce caractère méta de votre écriture qui nous permet de penser la place de la Bible dans tout ce qui va suivre par la suite, et surtout la manière dont on peut court-circuiter ce récit pour raconter autre chose. Et quelque part, quand vous nous parlez de l'amour entre Judas et Jésus, vous faites une sorte de fanfiction, un petit peu comme celle qu'on peut trouver entre Draco Malfoy et Harry Potter, Batman et Robin, et ça, moi, c'est ça qui m'a plus qu'autre chose.
Philippe Battaglia.
Oui, j'aime bien la comparaison avec de la fanfiction, parce que c'est ça, et puis la pop culture. En fait, la Bible elle-même est déjà une forme de pop culture de l'époque. Les religions dominantes sont nées de syncrétisme, donc ils ont été piochés à droite à gauche pour attirer plus de fidèles, pour se créer elles-mêmes, pour créer une cosmogonie, pour créer une mythologie. On est déjà quelque part... Ouais, je vais le dire comme ça, mais la Bible, c'est déjà presque une fanfiction des mythes plus anciens. Donc on est presque déjà dans cette dynamique. Et puis, moi, je pars du principe qu'en 2025, dans nos sociétés occidentales, qu'on veut laïque ou autre, de toute façon, on est soumis à cet héritage judéo-chrétien, directement ou indirectement, nos lois, notre éthique, notre morale, elles découlent de ça. Et je trouve toujours intéressant d'aller piocher, puis de dérouler le tapis jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Alors en prenant les gens qui sont à la naissance de ce mythe-là et en les balançant dans le monde actuel, voilà, c'est un petit peu lié à ce côté laboratoire, qu'est-ce que ça va donner, comment 2000 ans après ils ont ce regard sur ce que eux-mêmes ont créé.
Le feu en robe en Judas avait maintenant tourné à l'orange et tendait vers un blanc immaculé. Les flammes glissaient sur ses brûlures pour se concentrer dans les paumes de ses mains. « Par le pouvoir du Christ, je te congédie, démon. Par la puissance du Christ, je te congédie, démon. Par le pouvoir du Christ, » répétait-il de plus en plus fort. Les murs se mirent à vibrer, l'air prenait une texture épaisse. Il collait aux doigts, rendait les gestes lents. Une brique se délogea d'un des murs et heurta le pavé dans un bruit lourd. « Retourne d'où tu viens, je te l'ordonne. » Le sol sous l'hybride à tête de chien prit une couleur sombre comme la nuit. De la fumée s'en élevait. D'un coup, il se fissura et des voix se glissèrent entre les failles, des litanies incompréhensibles aux sonorités lugubres. Des chants comme des plaintes s'élevèrent et traversèrent les chairs. Les pleurs et les suppliques des damnés, la créature sembla se dédoubler. Il y avait un homme aux traits tirés, terrorisé, et il y avait la bête immonde qui hurlait à présent, prostée à quatre pattes devant la fissure. L'image se déforma, comme si le démon était aspiré par la crevasse qui prenait forme sous lui. Le cri de la chose s'amplifia et grimpa de quelques octaves jusqu'à ne devenir qu'un long sanglot agonisant, tandis qu'elle s'arquait, refusant de se laisser happer par le gouffre.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait de La Dernière Tentation de Judas de notre invité ce soir dans Mauvais Genre, Philippe Battaglia. On parlait justement de cette distance, on parle de Neil Gaiman. C'est cette thématique quand même, moi, qui m'obsède un peu, c'est celle des dieux en exil. Mm-hmm. Ça commence avec Henry Heine, avec Michelet, qui voit un peu les dieux du paganisme antique, qui ne sont plus adorés, qui ne sont plus considérés, qui sont un petit peu en retraite définitive. Que deviennent-ils? Que font-ils? Et cette inspiration, elle court jusqu'au Malpertuis de Jean Rey, qui représente, ma foi, une sorte de pension de famille où les dieux grecs et romains sont là totalement en train d'agoniser. Et Neil Gaiman dans American Gods, là, c'est pareil. Il y a aussi cette idée, un peu, chez vous, Philippe Battaglia, de tous ces, après tous ces gens condamnés à l'éternité, avec des super-pouvoirs dont ils se servent de manière régulière, mais qui voient un petit peu, ils ne savent pas très bien comment tout cela va avancer. Il y a cette idée d'une sorte d'exil, exilé dans l'éternité, presque.
Alors, ça n'a pas été mon postulat de départ. C'est pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi en termes de comparaison entre la foi, les dieux qui se nourrissent de la foi, et puis la notion de célébrité. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'amuse un petit peu, tous ces gens qui se gorgent leur célébrité et puis qui finalement n'existeraient pas si le public n'avait pas foi en eux. C'est quelque chose qui m'amuse un petit peu. Moi, j'ai toujours un peu ce parallèle, les dieux sont des rockstars, et puis quand on arrête d'y croire, ils meurent. Et quelque part, tout ça a peut-être commencé avec Nietzsche, enfin, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'anachronisme, c'est l'absurdité de prendre des personnages d'une époque ou d'une culture ou autre et de les balancer dans un autre environnement et puis de voir ce qui se passe. C'est ce que j'avais déjà fait avec mes romans précédents, par exemple Astor Pastel et Les Vilains Gamins, qui parlaient de pirates qui vivaient de nos jours parce qu'ils avaient trouvé la fontaine de Jouvence et puis qui étaient tout d'un coup forcés de sortir du village où ils vivaient reclus et puis qui se confrontaient au monde moderne. Et puis voilà, c'est un truc qui m'amuse. Il y a peut-être un côté un peu Monty Python là-dedans. Dans l'absurde, voilà, c'est ce qui m'amuse.
Jean-Luc Rivera, alors, le fortéen que vous êtes, l'homme des phénomènes inexplicables, il y a un disque.
Ah oui.
Il y a quand même quelque chose, un document, un objet, un artefact qui circule depuis des siècles et des siècles et qui contient la clé.
Dans le tout début du roman, évidemment, le fortéen que je suis a fait un petit bond parce que vous utilisez en fait des thèmes que l'on retrouve dans Robert Charroux d'abord, et puis ensuite cette idée que en fait les poteries anciennes, on pourrait les déchiffrer, en extraire les sons et même les images. C'est d'ailleurs, le Vatican a été impliqué avec le père Ernetti à une époque, et donc vous utilisez ensuite, alors là on a ce sillon mystérieux, et quand on l'écoute, alors je crois pas qu'on spoil dès le début, parce que
On parle des trois premières pages. C'est pas non plus.
Voilà, bon. On entend la parole de Dieu, donc la preuve absolue de l'existence de Dieu, et vous retournez ça très subtilement avec ce qu'on appelle le backmasking, qui a commencé avec un disque des Beatles, en particulier pour annoncer la mort de Paul McCartney. Et derrière, qu'est-ce qu'on en a? En passant le sillon, donc en déchiffrant le sillon à l'envers, c'est la parole de Satan qui apparaît. Ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire comme début.
Philippe Batalia.
Oui, ça m'amusait parce que c'est quelque chose quand j'étais jeune, c'était un petit peu la légende urbaine. Oui. Voilà, si on passait les disques de Judas Priest, de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, oui. Voilà, on entendait le message de Satan et puis ça, voilà, ça m'amusait de mettre ça en scène dans une quête christianique. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais voilà. Mais ça me permettait aussi d'amorcer la chose. Là aussi, je veux peut-être pas en dire trop, mais c'est un détail qui me permet d'amorcer la chose sur les sociétés secrètes et la manière de déchiffrer le message.
Jean de Rose.
Et puis surtout, cette paranoïa un peu complotiste qui avait aussi, ça existait, hein, ACDC, ça veut dire les gens qui voyaient Antichrist, Death to Christ, etc. Donc c'est drôle de revoir ça, puisque en fait, les complotistes et les paranoïaques, pour le coup, ça fait 2000 ans qu'ils sont encore là, et donc il n'y a pas de problème avec ça. Et donc c'est vrai que c'est ce côté un petit peu qui met une tension dans le récit. Ça, c'est vraiment, oui, c'était une belle trouvaille.
Flora Hopkins.
Non, là, on a parlé un petit peu de comics avec les super-héros, on a parlé de littérature, et en interview, vous parlez beaucoup de cinéma, et notamment de l'influence que Quentin Tarantino, parmi d'autres, a eu sur vous.
Ouais.
Voilà, est-ce que quand vous écrivez, vous imaginez vos scènes, peut-être tout particulièrement les scènes de torture, voilà, comment ça vient l'écriture quand on écrit des scènes comme ça
Oui, moi, j'ai pas de formation littéraire. J'ai pas de formation du tout, en fait. J'ai pas fait d'études. Et ma culture, elle vient de l'audiovisuel, elle vient du cinéma, elle vient de la série, elle vient du comic books. Donc elle est très graphique. Et je crois que ça se voit à la lecture de ce que j'écris. C'est de la mise en scène, particulièrement. Et donc c'est une écriture très graphique, c'est une écriture, je pense, qui pourrait être facilement adaptée à l'écran. Mais oui, c'est ça. Et puis après, la torture, peut-être j'y prends un peu trop de plaisir. C'est vrai qu'il faudrait que j'en parle à ma psy.
Notamment dans l'inquisiteur Hernandez, qui est au service du pape et qui se livre à des sévices, mais totalement d'un baroque achevé sur la personne des apôtres de ses frères.
On veut connaître le travail documentaire.
Là, il y a véritablement des moments, enfin, on est au-delà de la chambre des tortures de la Hammer. Là,
quand
bien
quand on fait intervenir l'Inquisition, on ne peut pas se permettre d'y aller à moitié. Il faut y aller à fond. Mais oui, non, alors je n'ai pas fait de recherche particulière. Alors, c'est peut-être ça qui est inquiétant, mais effectivement, je n'ai pas fait de recherche particulière sur la torture. Je crois que je vais définitivement parler à ma psy.
Mais moi, il y a bien sûr les scènes d'horreur, mais ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est qu'il y a des scènes de merveilleux, justement, quand il y a les miracles et ce peuple de la rue qui est émerveillé. Donc, il y a toute une partie presque enfantine dans ce côté très émerveillé. Et c'est très beau aussi. Alors, les scènes d'horreur baroques, comme disait François, mais surtout, moi, j'ai aussi été touché par ces scènes où, quand les gens, ils sont des hauts, des A, quand, voilà, c'est vraiment un monde complètement merveilleux de contes, presque, de folklore.
Oui, effectivement. Peut-être que je suis quelqu'un d'un peu tentaculaire, et puis c'est vrai que j'ai une fascination pour le cinéma d'horreur, la série Z, enfin le mauvais genre. J'imagine que je suis pas là pour rien. Et puis j'ai effectivement aussi beaucoup de tendresse pour la fantasy. On en a brièvement parlé en antenne tout l'univers de Terry Pratchett. L'un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait en rencontre, c'est de me dire que le peuple de la rue aurait pu habiter Ankh-Morpork. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis donc on retrouve un petit peu tout ça dans un livre qui mêle effectivement de l'humour, parce que c'est aussi une de mes facettes, une de mes activités, puisque je suis humoriste, je fais de la scène, et puis l'horreur, parce que voilà, j'aime ça, et puis la fantaisie, on disait c'est une histoire d'amour, c'est La Dernière Tentation de Judas, je crois que c'est fondamentalement un drame, parce que c'est une histoire d'amour impossible. C'est un amour contrarié. Donc voilà, il y a de l'humour, il y a de l'horreur, il y a de la tendresse, mais fondamentalement, c'est un drame.
Et puis, il y a surtout cette quête des 30 deniers. Mm-hmm. Ça, je trouvais ça fascinant, puisque ça nourrit de manière très efficace et très belle l'ordre du récit. Comme ça, on voit ce Judas dont l'histoire coïncide avec la quête de ces 30 deniers qu'il essaie de retrouver et de rassembler cette somme et de l'avoir serrée dans la main. Et alors, aussi bien sur alors là, c'est fabuleux, parce que c'est sur la carapace d'une tortue huismancière. Il y a une pièce de denier de Judas. Il y a sur le casque, je crois, d'un ancien légionnaire. Ouais. Il y a également à la Valette les oui. Templiers. Oui. Donc, ouais. D'une certaine façon, vous avez un petit peu disposé tout le paysage historique du christianisme, d'une certaine forme de culture un peu décadente, et pour arriver à constituer un petit peu l'histoire de Judas. Là. Parce que ça va dans tous les sens aussi.
L'histoire de Judas suit forcément l'histoire du christianisme et le déplacement de ces pièces suit l'histoire elle-même, les Romains. Après, j'y ai mis aussi des choses qui font partie de moi. Il y a l'une des pièces, enfin, on va pas tout dévoiler, mais enfin, les lieux visités sont des lieux sur lesquels je suis allé. On parle de Saint-Maurice en Suisse, qui est l'abbaye où on en a parlé en début d'émission, où j'ai travaillé. On parle de Malte parce que je suis moi-même maltais, ma mère est maltaise. Donc voilà, il y a une part d'histoire, il y a une part de moi là-dedans aussi. Mais oui, cette quête, elle est peut-être un peu prétexte à tout ça, mais en même temps, elle suit fondamentalement l'histoire judéo-chrétienne. D'ailleurs, le livre lui-même commence finalement par la Genèse, se termine par l'Évangile. On a fait le tour.
Traversa donc les siècles comme un enfant qui, la nuit venue, tire la couverture au-dessus de sa tête pour se protéger des monstres qui vivent sous le lit. Mais à la différence de l'enfant, il avait vu ces monstres. Il en avait subi les sévices, les complaisances malsaines. Pour lui, ce n'étaient pas des contes, mais la plus pure et la plus affreuse vérité. Il passa le plus clair de son temps à fuir les épidémies et les guerres qui ravagèrent le monde, se cachant dans des forêts denses ou des grottes. Un jour, il trouva une vieille mine abandonnée et y resta cloîtré pendant plusieurs dizaines d'années. Quand il en ressortit, il constata que malgré tous ses efforts, le monde ne l'oubliait pas. On le vénérait en Orient comme en Occident. On s'échangeait des reliques en son nom. Certains se targuaient même de disposer de son corps dans tel ou tel lieu saint. On le croyait disparu, c'était au moins ça de prix. Au Moyen-Âge, on fit de lui le saint patron des lépreux, lui qui ne serait pas approché de l'un de ces pauvres airs pour tout l'or du monde. Il fit le tour de l'Europe, des Amériques, il voyagea jusqu'en Afrique subsaharienne et passa quelque temps en Asie, également où il apprécia particulièrement la médecine préventive. À la fin du 19e siècle, il vécut quelque temps à Londres, où Marie de Magdala, une amie si proche que d'aucuns pensaient qu'elle était sa sœur, s'était provisoirement installée. Lazare, qui a beaucoup frappé Jean-Luc Rivera, puisque il y a toute une série de personnages qui sont, je dirais, alors, au plein de leur figure, comme ça, qui sont super héroïques, qui sont apostoliques, qui sont divins, qui sont là pour l'éternité à combattre. Et puis, il y a ceux qui ont des pouvoirs, mais qui n'ont pas l'éternité, et qui sont extrêmement émouvants, Jean-Luc Rivera. Là, on a Lazare, qui vit l'histoire, et qui, avec tristesse.
Lazare ne vit même pas l'histoire, il est comme dans l'extrait que vous l'avez. Il assiste à l'histoire, mais il se planque en permanence, puisqu'il a la longévité, mais pas l'immortalité. Et comme il est mort une fois avant d'être ressuscité, il sait ce qu'il attend de l'autre côté. Et donc, il passe 2000 ans à essayer d'échapper à la mort, mais sans profiter de la vie, en fait.
Exactement.
Donc, je crois que c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Alors que les apôtres, eux, comme ils ont eu l'immortalité, donc, ils en profitent pas, parce qu'il y a des descriptions aussi, spécialement dans les débuts de l'évangélisation, vous décrivez les supplices, et rien de pire que quelqu'un qui ne peut pas mourir alors qu'il est soumis à des tortures.
Saint Jean, notamment, qui est bouilli vivant.
Vivant, il n'arrête pas.
Et on n'arrive pas à le bouillir.
On a beau le repousser dans l'huile bouillante, il est toujours en train de survivre. Donc ça, c'est moi ce qui m'a frappé vraiment.
Oui, les
personnages sont très émouvants. Et surtout, on s'aperçoit qu'avec des milliers d'années, en fait, chacun retombe en bout de course dans ses travers très humains des débuts. Ce qui m'a frappé, c'est par exemple Matthias, le publicain. Il était publicain avant.
Matthieu, pardon.
Il était publicain. Et ben finalement, la seule chose qu'il a fait au bout de 2000 ans, c'est de s'enrichir monstrueusement. Et d'ailleurs, il y a des passages très drôles. Il peut pas s'empêcher chaque fois, même quand il voit le premier denier, il dit mais combien ça peut bien valoir aujourd'hui si on le vendait. Bon, donc on s'aperçoit que chacun retombe dans son humanité initiale.
Philippe Bataillon.
Oui, parce que éloigné de l'enseignement ou de l'aura du Christ, ils redeviennent humains, voilà. Avec leurs travers, avec leurs obsessions, avec leur traumatisme qu'ils ont gagné en chemin. Et puis ils sont tous, avec ce que ça a de plus beau, mais aussi de plus triste, ils sont tous profondément humains. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'humanité de ces personnages.
Sauf que par rapport à l'humanité, il leur manque une chose, et c'est peut-être aussi le propos avec le transhumanisme, avec cette fantasme de d'être éternel. La plaie, c'est peut-être la vie éternelle. La plaie, c'est qu'ils ne t'arrivent pas à mourir, en fait. C'est ça, la plaie, c'est que...
Ils chercheront la mort et ne la trouveront pas.
Et là, c'est quelque chose qui est un peu... ce qui est supposé être le hochet ou la carotte, finalement, semble être un peu quelque chose de maudit.
Oui, puis on se rend compte qu'ils sont pas tous égaux face à cette immortalité. On a parlé de ceux qui ont subi leur martyre, et puis évidemment c'était épouvantable puisqu'ils pouvaient pas mourir. Ils ont pas tous très bien réagi par rapport à ça. Certains ont été plus chanceux, se sont enrichis. D'autres, finalement, se sont laissés aller parce que une fois de plus, on n'est pas fait pour. On n'est pas fait pour vivre aussi longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans sa psyché? Est-ce qu'il n'y a pas de fin? Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'a pas fait tout le tour?
Dernière question, Flore Hopkins.
J'aurais aimé revenir sur la genèse du roman, parce qu'il devait être une trilogie, et vous racontez bien volontiers en interview, vous vous êtes entretenu avec de nombreux théologiens.
Oui.
Est-ce que ces questions épineuses, presque hérétiques, vous les avez posées aux théologiens? Comment on travaille en intelligence avec des gens dont c'est la foi?
Alors...
Excellente question.
Alors, je fais une petite distinction. J'ai parlé avec des gens d'église, où là, effectivement, j'ai pas forcément exposé l'entier de mes motivations. Et j'ai parlé avec des théologiens laïcs, où là, effectivement, c'est beaucoup plus ouvert, puisqu'on est, l'interprétation. Mais moi, ce qui m'est apparu là-dedans, et qui était peut-être, ma croyance dès le départ, je le disais, moi j'ai grandi dans un environnement catholique, non pas avec mes parents, mais enfin avec l'environnement social dans la partie de Suisse où j'habite. Et ce qui m'est apparu, c'est la corruption politique de la figure du Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Christ est brandi par une partie de la population plutôt de droite, plutôt bourgeoise et dominante, plutôt conservatrice, alors que la figure du Christ, telle qu'elle est décrite dans le bouquin, c'était un gars à nous. C'était un punk.
On est bien d'accord.
C'était quand le Christ remet en question les anciennes lois, c'est un anarchiste. Quand il multiplie la nourriture, c'est un communiste. Mmh. Quand il interdit le divorce, c'est alors peut-être 2000 ans après, c'est plus compliqué à défendre, mais c'était un acte féministe, progressiste. Quand il fouette les marchands du temple, il est anticapitaliste. Ah. Et puis on nous l'a dépossédé. C'est là où je disais la distinction entre l'humain et le divin. On l'a rendu divin pour l'éloigner de nous, parce qu'on veut bien que le peuple et des héros, mais ils doivent être issus d'une caste dominante pour que le peuple ne puisse pas s'identifier et ne puisse pas y accéder.
Merci Philippe Battaglia, et nous recommandons bien évidemment chaudement, très très chaudement, Comment en faire, La dernière tentation de Judas, votre roman paru aux éditions La Talente. Chronique maintenant dans Mauvais Genre, on commence avec vous, monsieur Rivera.
Nous allons rester aux éditions de La Talente,
où viennent de sortir. Très bonne maison. Ils ont sorti un roman sur Judas, il paraît.
Qui est très bon. Oui. Et là, nous allons parler vraiment, nous allons passer aux antipodes de Judas, avec le diptyque de Becky Chambers, qui s'intitule « Histoire de moines et de robots », qui vient de sortir en un très joli roman volume cartonné. Et donc là, on est dans de la science-fiction qui a des accents quasiment simakiens et qui nous fait partager les états d'âme de Freur Dex, il est non-genré, et ses pérégrinations avec sa petite roulotte à vélo le long des routes de Panga, qui est une grosse lune habité par les humains, et il apporte dans tous les villages qu'il traverse le réconfort psychologique nécessaire à ceux qui en ont besoin au travers de la cérémonie du thé. Et il va rencontrer un robot, philosophe, le premier à réapparaître depuis qu'ils se sont tous un jour enfuis dans la forêt bien des siècles auparavant, puisqu'ils ont accédé à la conscience et ils ont refusé de continuer à servir les humains. Et tous deux vont se découvrir. Et en même temps, ils vont découvrir ce qui fait un être conscient, les différences étant enrichissantes et non pas amoindrissantes, et l'acceptation de l'autre tel qu'il est en étant la clé. Et ça fonctionne naturellement dans les deux sens. Donc ça, c'est de la science-fiction comme on l'aime, qui est tolérante et optimiste. Panga est passé à côté de la catastrophe écologique, mais tous les humains ont su mettre en œuvre les moyens nécessaires, et ça montre... ça nous montre une voie possible pour concilier à la fois la haute technologie et le respect de l'environnement. Quant au robot Onfal, il est le révélateur de ce que nous sommes et il se montre lui-même tout à fait humain dans ses sentiments, en particulier à travers cette curiosité dévorante qui le motive et qui le pousse à poser des questions tout le temps. Donc c'est vraiment à lire pour se remettre de toutes ces dystopies déprimantes qui envahissent les rayonnages.
C'est bien noté. Deuxième conseil.
Nous changeons complètement de domaine. Et parce que là, avec le Golem de pierre de Claire Crust aux éditions Mnemos, l'autrice nous a donné une très belle réflexion sur ce qui est en fait l'équilibre de la terreur. Donc on est tout à fait dans l'actualité habituelle. Elle nous emmène dans un monde où 3 siècles auparavant, un roi ambitieux a fait créer par une sorcière l'âme absolue, des golems gigantesques, des géants de pierre totalement invincibles. Il en avait fait faire une dizaine, ils ont commencé à conquérir le monde pour ce roi, mais comme le roi, comme souvent les hommes politiques puissants, n'a pas tenu parole envers la sorcière, elle a diffusé pour se venger le secret à tous les autres pays de la construction, de la création des golems. Donc, tout le monde s'est mis à construire des golems à tort et à travers. La guerre, une guerre totale a tout ravagé. Et le résultat des courses, c'est que tout le monde s'est retrouvé totalement ruiné et mis à bas. Et un grand sorcier avait réussi à trouver le moyen de détruire ces golems. Et ensuite, tous les États s'étaient mis d'accord pour détruire toutes les informations possibles et existantes sur les golems. Mais un jour, donc 3 siècles plus tard, un frère et une sœur jumeaux qui s'ennuient. Le frère entend des voix depuis tout petit, les voix des esprits qui habitent. Donc, son secret étant dévoilé, il doit devenir moine dans un petit temple, et pour son malheur, il va y avoir une étrangère qui va arriver. Elle a retrouvé comment, ça sera dans le roman, le secret de la le secret des golems, et à partir de là, elle va créer un golem dans lequel va être absorbé l'esprit de la sœur, donc du moine, Almé, donc le moine, va partir dans une quête pour retrouver comment détruire le golem. Il devient allié de circonstance à un petit royaume. Il va découvrir à partir de là des secrets qui sont enfouis depuis 3 siècles. Et comment, là aussi, à partir pour soi-disant la raison d'État, la défense du bien commun, etc., on s'aperçoit que personne n'a retenu les leçons de l'histoire et que l'arme absolue qui doit jamais servir, puisqu'elle n'a qu'un rôle dissuasif, personne ne peut résister à s'en servir. En parallèle, on va suivre sa quête, et la quête de Yae, donc sa sœur, qui est prisonnière de ce corps abominable de golem, et qui lutte pour conserver son humanité et sa raison dans ce corps tout à fait monstrueux. Donc Claire Cruss nous donne là un très beau roman, à la fois d'action et de réflexion, et surtout très humain. Et juste une très courte mention,
très, très courte,
vient de sortir aux éditions du Diable Vauvert, la première anthologie du prix Jacques Sadoul de la Nouvelle, qui s'appelle Un écho magistral, et donc qui a été créée pour mettre en œuvre Jacques Sadoul. C'est à partir d'une phrase qui était « Je vais au café pour lire le journal d'avant-hier », ça nous donne des nouvelles extraordinaires.
Merci Jean-Luc. Fleur Hopkins.
Les auditeurs nés dans les années 90 auront sans doute reconnu le générique d'une de mes séries favorites de l'époque, j'ai nommé « Fais-moi peur ». Dans chaque épisode, on accompagnait la société de minuit, occupée à raconter des histoires à se glacer le sang. C'est un peu de ces souvenirs d'enfance que j'aimerais faire remonter en vous de ce soir. De lointains chocs de lecture peuplés de pantins maléfiques, de nains de jardin cannibales et d'éponges à vaisselle vampiriques. Rappelez-vous des frissons que provoquaient chez vous des auteurs comme R.L. Stein, Christopher Pike et Anthony Horowitz. Si, comme moi, votre bibliothèque croulait sous les collections Passepeur, Spooksville et autres pocket frissons, si vous aussi vous mangiez votre goûter devant le loup-garou du campus, Eerie Indiana et Chair de poule, eh bien réjouissez-vous. Avec la création de Nocturne, Actes Sud Jeunesse nous prouve que l'horreur pour les adolescents a de beaux jours devant elle. Nocturne, c'est une collection dirigée par Vincent Mondiaux à réserver aux lecteurs de plus de 15 ans. Elle sort ce mois-ci ses 2 premiers titres, à savoir « Ce soir, c'est carnage » d'Antoine Pietri et « Les profonds » d'Élie Darko. Alors oubliez complètement les couvertures délicieusement quiche de chair de poule. Ici, leur teinte rouge sang donne le ton. Il s'agit de textes matures qui ne s'interdisent pas des torrents d'hémoglobine. Dans Les Profonds d'Élie Darko, par exemple, on passe une nuit blanche en huis clos dans une centrale hydroélectrique avec une bande d'adolescents. Bien vite, nos malheureux héros sont frappés d'hallucinations auditives et visuelles qui leur réservent bien des terreurs. En définitive, la toute jeune collection nocturne est destinée à ceux qui, après s'être repus de la collection Horribilis de Violette de Charnage et Hantée de chez Casterman, cherchent de l'horreur assumée, bien écrite et qui n'a pas froid aux yeux. Les explorateurs de l'étrange qui vont suivre, à savoir Morgane Cossarieux et Vincent Tassy, ont eux-mêmes publié de l'horreur jeunesse dans la collection Chatons Hantés de chez Chat Noir. Ce mois-ci paraît chez ActuSF leur roman épistolaire gothique Festin de larmes. Quel titre ! Si vous avez suivi l'actualité horrifique ces derniers jours, vous n'avez pas échappé à la polémique qui entoure l'affiche du Dracula de Luc Besson, qui ressemble tout de même beaucoup à l'affiche du Nosferatu de Robert Eggers. Comment donc, me direz-vous, réinventer la figure du vampire alors que tant d'écrivains et de réalisateurs s'y sont déjà cassés les crocs ? D'abord, eh bien, en soignant le roman sous toutes ses coutures. Festin de larmes, justement, se présente avec un beau jaspage orné de papillons, les animaux fétiches du terrible Tristan de Vardalek. Entre ces pages, vous trouverez de nombreux dessins réalisés par Morgane Cossarieux. Il convoque à la fois l'univers du tatouage, mais aussi l'esthétique symboliste. On le sait, depuis la publication de leur roman pastiche à quatre mains, Entrevue choc avec un vampire, évidemment clin d'œil à Anne Rice, Morgane Cossarieux et Vincent Tassy connaissent le folklore vampirique sur le bout des doigts. Rien d'étonnant donc à ce que Festin de larmes se déroule à la Nouvelle-Orléans, en plein mouvement spirit. Rien d'étonnant non plus à ce qu'une tension homosexuelle existe entre notre héros, Aubry Clark, et son mystérieux invité. Et pourtant, cet homme sans ombre, qui plane comme un vautour sur la famille d'Aubry, n'a rien d'un vampire traditionnel. Il se repaît de larmes et d'un petit peu de fluide vaginal plutôt que de sang et n'aime rien de mieux qu'engloutir la souffrance des artistes maudits sur lesquels il a jeté son dévolu. L'écriture sensuelle du duo se glisse comme un gant dans ce 19e siècle marqué par les orgies, les tables tournantes, les vapeurs d'opium. Je sens que ça va vous plaire, François.
Oh bah oui.
Surtout, Festin de larmes renouvelle la figure du vampire, ou plutôt devrais-je dire du Vourdalak, en la mêlant à la mythologie grecque, au golem, au gorgone. Décidément, l'horreur nous régale ce mois-ci.
Merci Fleur, on termine avec vous, Sean Rose.
Oui, avec de l'horreur.
Toujours de l'horreur,
ouais,
encore de l'horreur.
Toujours de littéraire, cette fois-ci pour les grands. Donc c'est quelqu'un qui entend dans l'aéroport d'Osaka, mais l'avion est toujours relié à la passerelle, et c'est une voix comme ça de femme qui se plaint un peu parce qu'il est dans le même cas qu'elle. Cette Mariko est en train de rater l'avion, et ce Jake aussi. Donc en fait, malgré le ton combinatoire de cette femme qui est très executive woman, très cadsup, très droit dans ses talons aiguilles, finalement ne fait pas plier le test, et ces deux personnages se retrouvent finalement à rester une nuit de plus dans l'hôtel, à l'aéroport ou à côté. Et en fait, ils vont dîner ensemble parce qu'ils se croisent par hasard et elle l'invite à dîner. Et cette Mariko va confier en fait que c'est une femme très froide parce qu'elle est incapable d'aimer les hommes. Et en fait, parce qu'il y aurait une sorte de sortilège, elle était trop absorbée par sa carrière. Et son jumeau Hiroji qu'elle a beaucoup aimé et dont elle était si proche enfant, eh bien, est mort. Elle s'était pas occupée de lui. Et finalement, avant de mourir, il a dit qu'il avait été pénétré par un esprit, un dieu appartenant à une dimension supérieure. Et surtout que ce dieu avait déplacé ses entrailles à l'intérieur de son corps. Et donc, en fait, là, le Jake se dit, mais ma meilleure amie, Lena, la même chose lui est arrivée. Et donc là, il y a une quête qui montre une entité féminine alors, on traverse les fuseaux horaires et aussi les pays, Berlin, Pays de Galles, Nouveau-Mexique, on arrive à diverses générations et c'est sur cette horreur, cette voix féminine. Et ce livre s'appelle L'étreinte des ombres de Suzanne Barker chez Dalva.
Merci Sean Rose, merci Philippe Battaglia d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour la dernière Tentation de Judas. C'est aux éditions La Talente. Et puis vous retrouverez toutes les indications concernant les livres chroniqués sur le site de Mauvais Genre et de France Culture. Je signale rapidement quant à moi le festival Sortilège le 21 juin à l'espace Saint-Michel, consacré cette année à l'Indonésie. Et puis la très belle exposition Jean-Michel Nicolet, Sherlock Holmes, Harry Dixon à la galerie Barbier jusqu'au 14 juin. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pellery, Ludovic Auger, Claire Poinsignon, Fleur Hopkins, Le Ferron, Claire Martin-Dugard, Jean-Luc Rivera, Sean Rose et François Angelier vous remercient d'avoir écouté Mauvais Genre.